France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Misérable dictionnaire de mélancolies et de crimes. Ainsi Baudelaire qualifiait-il son œuvre. Pour comprendre comment le poète avait extrait la beauté du mal, un autre poète, Francis Carco, celui de Jésus Lacaille, s'était lancé dans une longue série d'émissions consacrées à l'auteur des Fleurs du Mal. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 7 mars 1950.
Francis Carco présente une nouvelle série d'émissions consacrée à Baudelaire, avec Jacqueline Morane et Serge Reggiani. Prise de son André Papiot, réalisation Claude Roland Manuel.
Nous devons tout à Baudelaire. Son exemple, son influence nous ont permis d'aller plus loin dans la connaissance de nous-mêmes et fourni les moyens propres à y parvenir. Avant lui, des philosophes tels que Schopenhauer se contentaient de la représentation des êtres et des choses. Il nous a révélé leur odeur, leur chaleur, leur densité, leur poids, imposé leur présence et communiqué jusqu'à l'âme ce tressaillement, ou plutôt ce frisson nouveau, qu'en raison de son impuissance à l'éveiller chez ses admirateurs, Victor Hugo lui a généreusement octroyé.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies. Et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
L'apport de Baudelaire consiste dans ses correspondances, ces échanges fulgurants, qu'il établit le premier entre nos perceptions et nos aspirations, par quelque sens qu'elles se manifestent, isolées ou simultanées. Le poème « Les phares » ouvre à ce point de vue des perspectives prodigieuses.
Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux sourire tout chargé de mystère apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures et d'un rayon l'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs et se lever tout droit des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, puget, mélancolique empereur des forçats. Va-t'au, ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant, des corps frais et légers éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté de mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert ou sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.
Une telle grandeur, une telle noblesse d'inspiration ne sont point empruntées. Elles constituent le fond, la nature même des fleurs du mal, dont un des pensifs du temps où elles parurent disait à leur auteur « Ce livre restera, mon cher, sur toute votre vie, comme une tâche. » Oui, mais quelle tâche ! Éblouissante ! Baudelaire ne sourcilla point. Il accueillit le compliment avec le dédain qu'il mérite, puis nota dans la marge de son manuscrit « Quelques-uns m'ont dit que ces poésies pouvaient faire du mal. Je ne m'en suis pas réjoui. D'autres qu'elles pouvaient faire du bien, et cela ne m'a pas affligé. » Ce poète, comme l'a fait justement observer Jules Laforgue, le premier qui ne prit pas l'air inspiré, doit sans doute à cette attitude de n'avoir point connu de son vivant la gloire que par la suite nul ne lui marchanda. Ajoutons qu'au moment où il composa les fleurs du mal, ses aînés étaient tous partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Trop tard, tant mieux, car en raison de cet état de choses, Baudelaire écrit « Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile d'extraire la beauté du mal. » On réunirait aisément un recueil d'aphorismes désobligeants en puisant dans les réflexions qu'il a laissées sur ses carnets. Par exemple, le grand homme est bête, avance-t-il, imperturbable, alors que tout le temps, de tout temps, les grands hommes, ou qui se croient tels, ne pêchent point précisément par modestie. Comment le désarmer ? J'ai mes nerfs, mes vapeurs, réplique-t-il. Ou faisant allusion à son œuvre, il la traite de misérable dictionnaire de mélancolie et de crime. Pareil refus s'explique malheureusement pour peu que l'on se penche sur la vie du poète. Parisien de naissance, Baudelaire vint au monde le 9 avril 1821 dans le très vieil hôtel d'Aligre, 6 au numéro 13 de la rue Hautefeuille, sur l'emplacement d'un ancien cimetière aux Juifs. Fils d'un sexuagénaire et d'une aimable et séduisante femme plus jeune que lui de 34 ans, Charles est, comme on le dit vulgairement, le fruit d'une union disparate. Et bien que les lois de l'hérédité n'a pas manqué d'établir François Porcher dans le livre admirable qu'il a consacré à l'auteur des Fleurs du Mal, soit encore mal connu, il est permis de voir dans la grande disproportion d'âge qui existait entre ses parents, la première fatalité qui pesa lourdement sur sa vie. Son tempérament nerveux, son caractère débile et violent, aux oscillations perpétuelles, trouverait là un commencement d'explication. En février 1827, Charles n'avait que 6 ans lorsque son père mourut. Et cette mort, loin de l'affecter outre mesure, ne fit que l'attacher davantage de toutes ses fibres, de tous ses instincts à sa mère. Il y a eu dans mon enfance, lui avoua-t-il plus tard, une époque d'amour passionné pour toi. Lis sans peur. Je ne t'en ai jamais tant dit. Je me souviens d'une promenade en fiacre. Tu sortais d'une maison de santé où tu avais été relégué et tu me montras pour me prouver que tu avais pensé à ton fils des dessins à la plume que tu avais fait pour moi. Crois-tu que j'ai une mémoire terrible? Plus tard, la place Saint-André-des-Arts et Neuilly. De longues promenades, des tendresses perpétuelles. Ah, ça a été pour moi le bon temps des tendresses maternelles. Je te demande pardon d'appeler bon temps, et il souligne, celui qui a été sans doute mauvais pour toi. Mais j'étais toujours vivante en toi. Tu étais uniquement à moi. Pareille exaltation ne pouvait que l'isoler de ses camarades ou l'inciter à les fuir. Charles se serait aisément passé d'eux quand sa mère se remaria. Nous sommes ici au bord d'une des sources les plus certaines, écrit François Porcher, du malheur baudelairien. La jeune femme épousait le commandant Aupic, qui, ne comprenant point que son beau-fils éprouva pour lui tant d'aversion, pour ne pas dire de haine, le mit pensionnaire au Collège royal de Lyon, où, promu lieutenant-colonel, ce brillant militaire fut trop heureux d'installer son épouse afin de la soustraire à la menace du choléra qui ravageait alors Paris. Charles dut se résigner, mais la détresse qu'il ressentit le marqua si profondément qu'elle nous valut, par la suite, ce poème souverain.
Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision ? Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation. Puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes comme un billet d'amour ce monstre rabougri, je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés, et je tordrai si bien cet arbre misérable qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine, et ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la géhenne les bûchers consacrés aux crimes maternels.
Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Il joue avec le vent, cause avec le nuage, et s'enivre en chantant du chemin de la croix, et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un oiseau des bois.
Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte, ou bien s'enhardissant de sa tranquillité, cherchent à qui saura lui tirer une plainte, et font sur lui l'essai de leur férocité.
Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, il mêle de la cendre avec d'impurs crachats. Avec hypocrisie, il jette ce qu'il touche et s'accuse d'avoir mis leurs pieds dans ses pas.
Sa femme va criant sur les places publiques. Puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer, je ferai le métier des épouses antiques, et comme elle, je veux me faire redorer. Et je me saoulerai de nard, d'encens, de myrrhe, de génuflexions, de viandes et de vins, pour savoir si je peux, dans un cœur qui m'admire, usurper en riant les hommages divins. Et quand je m'ennuierai de ces farces impies, je poserai sur lui ma frêle et forte main, et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin. Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein, et pour rassasier ma bête favorite, je le lui jetterai par terre avec dédain.
Vers le ciel où son œil voit un trône splendide, le poète serein lève ses bras pieux, et les vastes éclairs de son esprit lucide lui dérobent l'aspect des peuples furieux.
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place aux poètes dans les rangs bienheureux des saintes légions, et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations.
Je sais que la douleur est la noblesse unique où ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut, pour tresser ma couronne mystique, imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer par votre main montées, ne pourraient pas suffire à ce beau diadème éblouissant et clair, car il ne sera fait que de pure lumière puisée au foyer saint des rayons primitifs, et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière, ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs.
La vie de Baudelaire n'a jamais été qu'un supplice de chaque jour, une longue suite d'erreurs, de déceptions, d'humiliations, d'amertumes. Entre-temps, son beau-père, devenu colonel, avait été affecté à l'état-major du gouverneur de Paris. Charles suivit. On le mit à Louis-le-Grand, mais bientôt, la révolte qui couvait en lui contre l'homme qu'il rendait responsable de son bonheur détruit s'emparait des moindres prétextes pour se manifester. Monsieur Hopic, je cite encore François Porcher, était loyal, bien intentionné, mais en bon militaire, imbu en hiérarchie, habitué à voir ses subalternes lui obéir comme lui-même obéissait à ses chefs. Charles s'était incliné en apparence. Il avait rentré sa colère, refoulé ses larmes. Maintenant, il éprouvait de plus en plus de peine à se contenir. De Louis-le-Grand, il passa à la boîte Bailly, où il écrit ses premiers vers et abuse des permissions de théâtre que le portier, moyennant quelques paraguentes, délivrait à qui lui en faisait la demande. Puis, tandis qu'on le croit bien sagement au lit, il fréquente les brasseries à femmes du quartier latin. Est-ce alors qu'il contracta, ce sont ses propres termes, cette infection vérolique dont il révéla l'existence à la mère 5 ans avant la congestion cérébrale qui devait lui valoir une atroce agonie. Nous n'avons pas malheureusement à en douter. Or, cette affection redoutable dont il se cachait honteusement, n'était point pour améliorer ses rapports avec les siens. Au contraire, elle ne pouvait que l'assombrir, l'obséder si cruellement, qu'elle explique, si elle ne la justifie pas, la scène violente qu'au cours d'un grand dîner du printemps 1841, Charles fit à son beau-père en se précipitant sur lui afin de l'étrangler. Cette fois, la réaction de l'excellent M. Hopic s'exerça dans sa pleine rigueur. Charles, quand l'expédia à Bordeaux, dut embarquer sur le paquebot des mers du Sud, qui leva l'ancre d'abord pour les îles du Cap-Vert, puis pour Maurice, et finalement l'île Bourbon, où malgré la consigne reçue de faire exécuter à Charles le tour du monde, le capitaine Salis laissa le malheureux garçon prendre place à bord d'un bâtiment, l'Alcide, qui le ramenait en France. Il devait transposer plus tard.
Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse, où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et les femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Cependant, vous êtes-vous demandé pour quel motif le capitaine Salis permit à Baudelaire de lui fausser compagnie. Le colonel Hopic ne plaisantait pas sur ce point. Mais puisqu'il en a fait l'aveu lui-même, Charles, se trouvant atteint de syphilis, peut-être a-t-on cru sage d'éviter à l'équipage tout risque de contamination. Voici donc Charles de retour à Paris, tel un pestiféré, dont la constante angoisse consiste à ne point propager le mal qu'il a par malheur, peut-être même par bravade contractée. Aussi n'aspire-t-il qu'à exiger dès sa majorité la part qui lui est due sur son propre héritage pour fuir sa mère et ne point l'exposer au danger à quoi dorénavant il sait qu'il n'échappera pas. On a beaucoup parlé des 100 extravagances qu'il accomplit alors, de sa recherche effrénée des plaisirs et de sa pratique des stupéfiants. Plaignons-le. C'est afin d'oublier sa disgrâce qu'il se comporta aussi déraisonnablement. En quelques mois, la moitié de la somme qu'il a touchée s'est volatilisée en dépenses vestimentaires, en meubles prétendus anciens, en orgies. Il ne compte pas. Il ne lésine pas. Toutefois, le logement qu'il occupa sur le quai de Béthune au 10 se compose d'une seule pièce au rez-de-chaussée. Et le poète trouve à beau jour que le voisinage de la Seine est humide. Au diable les économies quand on possède encore, comme lui, de l'argent plein ses poches et que l'on a besoin d'un gîte décent pour travailler. Charles tente une expérience, rue Vanneau. Puis il revient à l'île Saint-Louis et y installe rue de la Femme sans tête, aujourd'hui rue Le Regrattier, une jeune mulâtresse, Jeanne Duval, dont il s'est entiché par caprice, un soir dans un petit théâtre. Cette fille l'amuse, l'excite, l'inspire. Il a écrit pour elle cette pièce magnifique.
Oh, toison, moutonnant jusque sur l'encolure. Oh, boucle. Oh, parfum chargé de nonchaloir. Extase. Pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormants dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir.
la langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum.
J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur, où frémit l'éternelle chaleur.
Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé.
Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde où j'ai eu ma longue traîne le vin du souvenir?
Une négresse qu'il avait vue fouetter à l'île Maurice, et le regret, qui sait, de son voyage interrompu, n'était point étranger au choix de Jeanne Duval. Des yeux, comme des soupières, dira-t-il d'elle pour tenter d'expliquer la sorte de fascination qu'elle exerçait sur lui. Charles était sous le charme. Dans cette paisible rue de la femme sans tête, la présence de la Vénus noire lui tenait lieu de tout.
Francis Carco vous a présenté la première d'une nouvelle série d'émissions consacrée à Baudelaire, avec le concours de Jacqueline Moran et Serge Reggiani. Réalisation Claude Roland-Manuel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 7 mars 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.